Alors, carte blanche à Gentil-Baudot, c'est bien ça.
On m'entend.
Une émission de Lily Sioux, réalisée par...
Paris-Bordeaux-Le-Mans, Paris-Bordeaux-Le-Mans, Paris-Bordeaux-Le-Mans.
Allô, tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Paris-Bordeaux-Le-Mans, Paris-Bordeaux-Le-Mans, Paris-Bordeaux-Le-Mans. Bon, d'accord.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Le soleil de juin, en ce dimanche après-midi, a invité à la campagne et à la mer, a conduit sur les routes de l'Île-de-France et de la Normandie un nombre considérable de Parisiens dont la sécurité est assurée par un ensemble policier important disposant de motos, voitures, voitures radio, ambulances, hélicoptères, aux missions innombrables et variées, les unes faciles, les autres difficiles, accomplies à coups de sifflets, bâtons, revolvers. La chasse aux imprudents, le secours aux blessés, l'identification des morts, les renseignements, observations, pénalisations de toutes sortes. Sifflant, verbalisant, canalisant, retenant et poussant les flots d'automobiles. Et pourtant, le stade est plein à craquer. Oui, dédaignant la pêche à la ligne, le pique-nique en forêt de Saint-Germain ou de Fontainebleau, le repos dans la chaise longue dans le jardin, la journée au bord de la mer, ne se satisfaisant pas comme vous, chers auditeurs, du simple reportage radiophonique de ce match international de football, mais je vais faire en sorte que vous soyez comme si vous étiez avec moi, à mes côtés, et c'est pour vous que je parlerai, que je parle déjà, que je regarde et regarderai 60 000 personnes.
Allô, qu'est-ce qu'il n'a pas ?
Oui.
Cette foule qui, tout à l'heure, amenée par les trains de Saint-Lazare, les autobus, les cars spéciaux, les taxis et les voitures particulières, à pied, à bicyclette, à vélomoteur, moto, scooter, en raz-de-marée, a traversé Colombes, en courant, a couru vers le stade, hors de l'agglomération, pleine de terrains vagues, non loin des usines, des baraquements de la zone, des HLM sortis de terre poussant comme des champignons, de grands champignons blancs. Cette foule qui se pressait au guichet, s'arrachait, brandissait les billets, les cartes d'invitation, ne trouvait pas, cherchait, demandait son chemin, piétinait, pleine d'ardeur, a envahi les gradins, s'est installée enfin pour assister à un... Pour assister... à un match d'un intérêt exceptionnel.
Martin Balaccio, Mort, Lefebvre, Kalinowski, Gaillard, Michel, Groux, Mortier, Kilissi, Ferrand.
Et à quelques jours, à 3 semaines exactement de l'ouverture de la Coupe du Monde de football...
Le score de cette dernière rencontre internationale de la saison sera pour nos joueurs, pour les sélectionneurs de l'équipe de France, et pour nous sera...
Nous serons tout à l'heure, dans un peu moins de 2 heures, ou un peu plus, selon qu'il y aura ou non de prolongation. De toute façon, la lutte sera chaude et serrée.
Une répétition générale à la veille...
La question qui se pose, nos joueurs emporteront-ils avec eux en Australie un grand espoir raisonnable, ou bien au contraire, nous faudra-t-il un miracle, toujours possible bien sûr, mais par définition nullement certain, pour que l'équipe tricolore prenne là-bas une place de choix dans le palmarès des nations.
Notre équipe de France, en effet, a connu tout au long de la saison des hauts et des bas. Et les derniers changements survenus dans sa composition, la blessure de Giovanni, son remplacement à l'avant-centre par l'ailier Rémois Mortier, le remplacement à l'aile droite de Mortier par Michel de Nancy, le remplacement très discuté de Mauvais par Lefebvre au poste d'arrière-gauche, remettent en question la certitude que nous pensions avoir trouvé d'une défense solide et d'une attaque homogène.
Linker Verteidiger Stauffacher, rechter Läufer Banzen, linker Läufer Göring, rechts außen Nohmer, halb rechts Benz, Mittelstürmer Ankermann, halb links Franz und links außen Eller. Kapitän der Mannschaft ist Wagner. Die französische Mannschaft spielt wie folgt. Im Tor Martin, rechter Verteidiger Balaccio, Stopper Morgue, linker Verteidiger Lefebvre, rechter Läufer Kalinowski, linker Läufer Gaillard, rechts außen Michel, halb rechts Groux, Mittelstürmer Mortier, halb links Kilissi, links außen Ferrand, Mittelstürmer Mortier, Kapitän der Mannschaft.
Les joueurs entrent sur le terrain en petite foulée, lignes mouvantes, colorées, rouge et or, vert, noir, blanc, aisance des corps musclés, sourire, bravo. Il fait un soleil magnifique. L'enthousiasme est véritablement extraordinaire et fait plaisir à voir.
Perdu dans la foule, ou plutôt bien distinct et très reconnaissable, les supporters allemands, dont on avait pu remarquer les autocars luxueux, les grandes automobiles, les petites Volkswagen. Les supporters allemands,
coiffés d'un chapeau vert avec des plumes et habillés de cuir.
Coupés par 10 ou 20 ou 30 ou 40, un peu partout dans le stade,
agitent leurs drapeaux, pancartes, banderoles, font en quelque sorte équilibre aux 59 000 Français indifférenciés, parmi lesquels ils se trouvent,
afin d'encourager les leurs.
L'arbitre, M. Hamilton, est anglais. Il est habillé d'une chemise blanche, col ouvert, d'un veste de sport noir, d'une culotte noire courte, très longue, qui s'arrête au-dessous des genoux, de chaussettes blanches, qui montent aux genoux, et d'espadrilles de tennis blanches.
On aperçoit à peine les genoux roses à poils roux de l'arbitre, M. Hamilton, qui est anglais. Il fait un soleil magnifique. Les joueurs entrent sur le terrain en petite foulée, foulent l'herbe bien verte, qu'un peu de vent agite.
Les joueurs se sont arrêtés, sur la ligne médiane, bien blanche. Ensemble, ils se tournent vers le soleil. Le tableau d'affichage, là-bas, dans le soleil, marque 0 à 0.
Il faut noter encore les immenses panneaux publicitaires, lessives, apéritifs, jus de fruits, bicyclettes, et la police, les reporters, les photographes, un orchestre militaire.
À l'extrémité du terrain, la fanfare du 1er régiment d'infanterie coloniale joue l'hymne allemand. La foule se lève, fait silence. À l'hymne allemand succède la Marseillaise. Les mots que je prononce s'élèvent avec ceux d'autres speakers, proches et lointains, français et étrangers.
In silence. After the German anthem, the Marseillaise. As I speak, my voice mingles with those of other commentators, both from Britain.
Les drapeaux français et allemands s'élèvent dans.
À l'extrémité del campo, la banda del primo reggimento di fanteria coloniale attaque la ligne tedesco.
Et le soleil, dans un silence religieux,
s'élève dans l'espace ému et recueilli du stade.
Revanche du sport sur l'histoire, les drapeaux français et allemands flotte amicalement dans le ciel bleu et blanc de Colombes.
L'ardeur du public, en effet.
On sait que le public aussi compte dans une rencontre sportive, que la partie ne se joue pas sur le terrain seulement, mais tout autour. Que les joueurs, amis et ennemis, non seulement sont liés entre eux par les mouvements du jeu, mais encore sont comme magnétiquement en rapport avec la foule qui les encourage ou les conspue, obtient ou n'obtient pas d'eux ce qu'elle en attend et voudrait exiger.
Monsieur le président du conseil municipal de Paris, entouré de diverses personnalités, serre longuement la main droite de chacun des joueurs. Il dit à chacun quelques mots aimables.
Ceux-ci, le visage bronzé, le regard droit, répondent en quelques paroles timides. Deux ou trois. Vent léger.
On tire au sort le coup d'envoi.
Silence. Comme si l'on attendait l'issue du match de cette réponse du sort. Il est évident que ce détail a son importance, mais minime. Il est plus vrai de dire que le destin, en ce moment signalé, ouvertement reconnu et sollicité, sans cesse planera au-dessus du terrain, et qu'en dernier ressort, le sort décidera.
Les Français gagnent. Pour cette première mi-temps,
les Français seront à ma gauche, les Allemands à ma droite.
C'est-à-dire que les Français auront pour eux un faible vent d'ouest.
Vale a dire que i francesi avranno favore un vento scarso e più imponente a levante.
Les Français se trouvaient de ce côté-ci, ils avaient le soleil dans les yeux. Et les Allemands de ce côté-là. Les uns et les autres à pas lents, qui les bras ballants, le regard baissé, qui les mains sur les hanches et le torse bombé, vont changer de côté. Franchissent dans les deux sens la ligne médiane, bien blanche.
Monsieur le président du conseil municipal de Paris, entouré de ses personnalités, regagne sa place dans la tribune d'honneur. Il entre dans la foule entre deux haies de gardes républicains qui présentent le sabre et le voici qui réapparaît, va s'asseoir, s'assoit.
Trois ballons, libres et joyeux, jetés par on ne sait qui, bondissent sur le terrain. Les musiciens du 1er régiment d'infanterie coloniale, posant sur l'herbe leurs instruments brillants dans l'ordre qu'ils se trouvaient eux-mêmes, vont s'asseoir plus loin dans l'herbe.
Monsieur Hamilton s'est emparé de l'un des trois ballons, les deux autres courent.
Courent, entre les pieds et les mains des demi-dieux, alertes acrobates qui ainsi se chauffent le muscle et s'amusent. Allant prendre leur place, font un temps de galop pour rire.
Ces deux ballons, après quelques passes, quelques tirs au but, sont envoyés sur les pelouses.
Les deux équipes en place maintenant se font face.
Les Français sont en maillot rouge et or et culotte blanche. Les Allemands en culotte noire et maillot vert et bleu. Martin, le gardien français, est tout en bleu. Le gardien allemand, Wassermann, tout en vert. L'un et l'autre portent genouillères et protègent tibia, gants, visières, casquettes. Et tous deux, dans leur but, sautent les pieds joints, levant les bras en l'air.
Les joueurs, tous les joueurs maintenant en place et immobiles, attendent. Benz, Ankermann, Franz, en demi-cercle, attendent les arbitres de touche avec leur drapeau rouge. Attendent les Allemands, les Français, 60 000 personnes. Vous-même attendez, auditeurs amis, et vous, auditeurs français et étrangers qui ne m'entendez pas, vous aussi, spectateurs de la télévision, qui voyez et verrez sur le petit écran ce que je ne vois ni ne verrai, et vous aussi qui l'ignorez, lecteurs demain des journaux, vous, spectateurs bientôt de cinéma, attendez. Or, M. Hamilton porte à ses lèvres le fatidique sifflet, et relevant sa manche sur son maigre poignet, il regarde sa montre chronomètre.
Mortier passe à Groux, qui passe à Michel, qui passe à Groux, qui passe à Mortier, qui perd la balle.
Ankermann attaque, les Français se replient. Ankermann lance la balle très loin en avant à son ailier Cromer numéro 7, qui déviant la balle au vol, la renvoie au centre du terrain à Benz qui tire au but.
Balle trop molle, à ras de terre, aurait pu être dangereuse. Reprise par Lefebvre, qui renvoie Kalinowski, qui shoot. Balle reprise par Hélé, reprise par Michel, touche.
Ainsi très vite la partie s'est engagée. Les joueurs, l'un après l'autre, sont entrés en action. La foule, cependant, est entrée dans le jeu. Et maintenant, pour 2 heures, la lutte est ouverte. 2 heures durant lesquelles joueurs et spectateurs...
Cependant que le match se jouera, dans ce stade de la région parisienne, entre joueurs français et allemands, combat singulier où deux nations amicalement s'affrontent, sous les yeux et les applaudissements, et peut-être les huées de 60 000 spectateurs. Et que... par la voix des journalistes et l'effort des techniciens de l'information moderne, immédiate, souveraine en tout lieu à l'instant qu'elle se donne. Chaque geste est décrit, commenté, photographié, retransmis sans attendre sur les écrans de la télévision, marqué de toutes les façons dans les centaines de mille de consciences sportives de toute nationalité. À partir donc de ce stade de Colombes, où une histoire au clair déroulement aux multiples significations, va à son dénouement. Et sans quitter de vue, jamais, ce centre d'intérêt, cette pelouse rectangulaire, à partir de là, ce foyer, ce terrain de jeu et d'enthousiasme. Et comme une pierre lancée dans l'eau produit des cercles concentriques de plus en plus grands, se heurtant aux rives et rencontrant aussi toutes sortes d'objets flottants, se contrariant aussi à d'autres cercles, ailleurs produits. Mais... ici, par le truchement des ondes radiophoniques et de l'imagination. Demeurant à Colombes, nous allons sans fin nous en éloigner, sans fin y revenir, sans fin couper et recouper les cercles propagés. Et de cette façon, en son principe libre et rigoureux en son développement, nous allons nous déplacer, voyager, parcourir, aller et venir, revenir, en cet après-midi de juin. Cependant que les aiguilles continueront leur course sur les cadrans horaires, que tout continuera, que le match se poursuivant insensiblement approchera de son terme, que le soleil peu à peu s'éloignera vers l'ouest. Sur le bord d'une route étroite et sinueuse, pittoresque, ombragée, de la vallée de Chevreuse, Monsieur et Madame Martin et leur fils Olivier, âgés de 9 ans, dans un grand concours de foule attendent le premier passage des coureurs des boucles de la Seine. Ils ont leur transistor. Et attendant les coureurs, ils écoutent le reportage du match de football qui, en ce moment même, oppose à Colombes l'équipe de France à l'équipe d'Allemagne.
Qui passe en avant à Ackermann, qui passe à droite à Bent, qui passe plus loin à droite à Cromer, qui perd la balle au profit de Ferrand, qui monte, passe à Kilici, qui perd la balle au profit de Ferrand, qui monte, passe à Kilici, qui perd la balle au profit de Bent, qui lance la balle au centre du terrain, balle renvoyée par Lefebvre, interceptée par Ackermann, reprise par Motti, les deux hommes se livrent, un duel magnifique.
Les voilà. Deux, puis trois, puis cinq, puis une vingtaine de coureurs passent, rapides, à quelques secondes d'intervalle, sont passés, s'éloignent. Comment avoir le temps de... Comment reconnaître à coup sûr le champion qu'on aime, l'idole, celui dont on aimerait qu'il gagne. On est venu pour ça. Et comment savoir, d'autre part, si l'image en ce moment constituée n'a pas changé, déjà? Comment savoir, encore, si nous avons vu quelque épisode décisif et qui sera historique, non seulement annoncé par les voitures radio de la course pour le meilleur entendement des spectateurs, mais aussi digne d'être répété à la radio, raconté demain dans les journaux. Les Martins, cependant, écoutent.
Mortier enfin se dégage et souverainement monte. Les Français avancent, les Allemands se replient. Mortier fin de fête, fin de 27, et terminé par la guerre à l'instant, mais reprend la balle irrésistiblement.
Fini pour cette fois. La voiture balai est passée. Une camionnette publicitaire des chocolats Tudor s'est arrêtée sur le bas-côté de la route, tout près. Et Olivier y court. On reviendra avec à la main deux tablettes. Et sur la tête un chapeau en papier.
Fagir lance la balle tête dans le camp français à Ackermann qui seul tire au but. But ! Ackermann vient de marquer le premier but du match à la 10e minute sur une passe de l'arrière gauche Stauffacher, quand les Français pourtant dominaient nettement.
Les joueurs vont reprendre leur place de part et d'autre de la ligne médiane pour la remise en jeu. Ils s'interpellent, échangent des réflexions, organisent peut-être les prochaines minutes. Ackermann, entouré par plusieurs de ses camarades, fait des bonds de joie. Dans les tribunes, sur les gradins, les supporters allemands agitent frénétiquement les clochettes, sifflent dans des sifflets. Là-bas, au tableau d'affichage, on change le 0 de l'Allemagne pour un 1.
Remise en jeu. Mortier passe à Kilici, qui passe à Groux, qui passe à Mortier, qui repasse à Groux, qui passe à Michel. Nos avants, parfaitement décidés, mènent une offensive de grand style qui désoriente tout à fait les défenseurs allemands.
Une maison à la campagne. Le jardin, les arbres, une rivière au bas du jardin. Il fait beau.
Soleil, nuages, soleil, l'eau, les arbres. Les dessins de l'eau sur les arbres, sur les troncs, les branches, sur les feuilles des arbres, les mouvements. Les impressions légères de l'eau sur les feuilles en mouvement. Les mouvements. Les impressions légères des feuilles, très fines et nombreuses du saule, sur celles larges du marronnier, elles-mêmes agitées. Et le bruit. Et les bruits du vent dans le peuplier.
Une maison à la campagne.
En face, de l'autre côté de l'étroite rivière, qui, 100 mètres plus loin, se jette dans la Marne, en face, de l'autre côté, tout près, les voisins écoutent la radio. Nous entendons très bien. L'eau, réservoir de lumière, est un bon conducteur de bruit. Et irions-nous nous promener entre les villas que nous entendrions encore et encore, le dimanche français et sportif, Sport et musique. Les voisins nous ennuient.
Sois poli. Les voisins pourraient nous entendre puisque nous les entendons. Ils ne feraient aucun bruit qu'ils te gêneraient tout de même. Car dans ce jardin, tu voudrais, tu aimerais... Un jardin n'est pas le paradis.
L'aéroplane lâche le planeur. Quelque temps, moteur coupé, aucun bruit.
Calme. Un trou dans le ciel.
Le planeur, maintenant, silencieux, passe entre la cime des arbres. Juste au-dessus de nous.
L'avion s'éloigne. Ayant pris son virage, il se dirige, descend, entre les quelques nuages, vers l'aérodrome.
Nous allons nous promener.
Oui. Nous nous promenons.
Nous marchons dans le chemin, entre les villas.
Nous parlons, nous bavardons. Nous marchons sur le sol bien plan et bien entretenu de sable et de gravier fin.
Nous tournons à droite, à gauche.
Dans ce jardin, gazon et fleurs, bleues, blanches, rouges, jaunes. Table et fauteuil de jardin, blanc et rouge, une famille, les enfants, les amis prennent l'air. Temps heureux.
Français et Allemands sont toujours à égalité.
Nous nous sommes vivement rangés sur le côté.
Nous allons jusqu'au pont.
Jusqu'au petit pont sous lequel coule cette mince rivière, près de laquelle nous nous tenions, dans le jardin tout à l'heure. Comme elle va se jeter dans la Marne. Et nous irons un peu plus loin, en cet endroit secret, protégé par des herbes hautes, abrité par des arbres, d'où nous verrons par-dessus les herbes, entre les arbres, au confluent exact, une voile glissée.
Longue route, quelquefois bordée d'arbres. Double ligne des cimes s'abaissant à se rejoindre. À l'horizon qui approche, où se dresse et s'élève à mesure un clocher, des toits. Traversée de ville par leur centre, ou détour d'un boulevard périphérique. Pleine où peu à peu les repères, pris en un autre voyage parfois et retrouvés, pivotent et glissent, s'éloignent. Sont remplacés. Hauteur, route à flanc de colline, d'où l'on voit en passant un grand morceau de paysage. La France est belle. Et pour aiguiller votre voyage en automobile, un poste de radio. Un autoradio.
Le jeu est d'une rapidité, d'une vivacité extraordinaire. Le rythme ne se ralentit à aucun moment.
Ferme cette radio, on n'entend rien. On ne s'entend plus pour parler.
Parler de quoi?
C'est Clichy, non Ferrand, qui vient de marquer pour la France, qui maintenant mène par deux buts.
Tu le bouges ton bahut.
La priorité, qu'est-ce que t'en fais?
Stop obligatoire, tu l'as pas vu, non?
Et le feu rouge.
Les daltoniens par-dessus le marché.
C'est toi qui me fais voir où?
Non, téléspectateur.
Comme la voiture brusquement stoppait, quand un accident était de justesse évité, les parasites ont disparu. Non sans humour. Et on a entendu le speaker au moment qu'on ne l'attendait plus. L'ironie aurait été plus forte si, l'accident n'étant pas évité, la voiture écrasée contre un arbre, ses occupants morts et moribonds, le speaker, indemne par miracle, avait surpris des sauveteurs, inoubliablement. On repart. On a bien roulé, toute la matinée. On s'est arrêté pour déjeuner entre le Mans et Angers. On a bien mangé. Bien bu. Un hélicoptère de la police survole la route nationale. Signale par radio les bouchons, les accidents. Vol, libellule, demoiselle d'acier, au-dessus du paysage ensoleillé. Un hélicoptère, un autre, promène une banderole publicitaire au-dessus du stade de Colombes, la lessive grillée, où la France mène par 2-1. Minuscule joueur, petite masse grouillante des spectateurs, aucun bruit sinon celui du moteur. Mais s'il le veut, le pilote peut brancher sa radio sur l'un des postes qui, en ce moment, donne le reportage du match.
Part et d'autre de la ligne médiane, les joueurs vont reprendre leur place sur le terrain. Remise en jeu, dans une ambiance électrique, la foule, les supporters allemands, le bruit qu'on fait autour de moi et que sans doute vous entendez, qui peut-être même vous empêche de bien m'entendre, ce bruit énorme vous dit mieux que je ne saurais dire. Les Allemands attaquent, semblent bien décidés à rattraper leur retard dans les 5 minutes qui restent jusqu'à la mi-temps. Les Français paraissent débordés. Wagner, le redoutable capitaine de l'équipe allemande.
La fièvre du public est si grande que les joueurs français et allemands en sont galvanisés. Que les Allemands sans doute vont marquer leur but d'égalité, à moins que les Français réussissent à repousser l'avant de vagues incessantes qui depuis tout à l'heure...
Vagues énormes, soleil en feu, brume sur l'horizon, la plage, sable brillant, toile vive bariolée, foule, dormir ainsi et se bronzer le corps, ou jouer, courir jusqu'à l'eau, entrer dans l'eau, dans les vagues bleues et grises, et nager enfin vers l'horizon. Aller plus loin que les baigneurs qui s'amusent, dans l'eau, plus loin, seul. Seul vers l'horizon. Un petit avion jaune, les lemmes des trois pêcheurs, survole la plage, s'éloigne, revient. Son ombre se déplace sur le sable, sur la foule étendue sur le sable. Revient. L'ombre, cette fois, court sur les vagues. Le nageur en sentit un instant la fraîcheur. Et les enfants, immobiles, une main sur les yeux, agitent l'autre main, font signe à l'aviateur dont ils distinguent en effet tout à fait bien la tête, casquée de cuir.
C'est presque comme si on y était.
Ou encore court à la poursuite de l'avion. Sauvage de quelque Océanie, à la poursuite de l'avion qui s'éloigne une nouvelle fois. Qui, cette fois, en ayant assez fait, ne reviendra pas, s'en va pour de bon, se trouve déjà au-dessus de la plage voisine.
Il reste 1 minute et demie à mon chronomètre, 80 secondes, et nous menons toujours avec un but d'avance.
À 1 minute juste de la fin de cette première mi-temps, la France conserve son avance, mais le ballon ne quitte plus les 45 mètres des buts français. Confusion extrêmement prometteuse.
Le ballon frappe la barre transversale. Oh là là ! Une fois encore, l'œuf avait tombé. Il se relève, boite, s'écarte du jeu.
Fragile supériorità della Francia. La palla non esce più dall'aereo francese. Gioco confuso innanzi alla porta. L'ultimo momento la Germania segue. Il gioco francese a tavolo. I francesi tedeschi scoppiano in un entusiasmo delirante.
Tor für Deutschland, Tor!
Le public de Colombe sportivement les applaudit. Cependant que les supporters allemands éclatent d'enthousiasme.
Les joueurs vont reprendre leur place pour la remise en jeu. Mais avant qu'ils y soient arrivés, l'arbitre siffle la mi-temps. Et cependant que les joueurs quittent peu à peu le terrain, accueillis par les entraîneurs, soigneurs, dirigeants, la foule.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en attendant la retransmission de la seconde partie de notre match France-Allemagne et dans le cadre de nos émissions culturelles, veuillez écouter un entretien avec Jean Thibaudeau.
Si vous allez à la montagne, n'oubliez ni vos skis métalliques,
ni le passe-montagne des trois pêcheurs.
Les trois pêcheurs.
Nos paroles sonnent faux. Et c'est en effet ce que je recherche, ici et dans le reportage, à condition que ces tons faux, pris comme tel, soient aussi mis en représentation. Il me semble qu'ainsi l'auditeur, au lieu de participer d'un coup, comme en bloc, au lieu de se laisser charmer et peut-être endormir, entrera dans le jeu, et qu'il s'y trouvera d'autant mieux, à l'intérieur, qu'il sera plus libre de ses mouvements.
Les trois pêcheurs.
La laine des trois pêcheurs existe en tout coloris, dans les grands magasins et toutes les bonnes merceries.
J'ai quelquefois été frappé par l'intérêt dramatique et plastique des missions sportives. Il y a là de vrais chefs-d'œuvre. Et j'avais imaginé d'enregistrer l'un de ces reportages et de le diffuser tel quel, en invitant l'auditeur à le prendre non plus pour ce qu'il avait été, mais pour ce qu'il avait été pour moi.
Mais
je n'aime guère la provocation. Ça aurait été de la provocation, je crois. Ou plutôt, je préfère provoquer sur mon propre terrain, l'écriture. Au lieu d'inventer une histoire, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été fait, j'essaie de prendre les choses à la lettre.
Pour vous, la radio est un art spécifique?
Les trois pêcheurs.
Une litaine de fonceurs sont en laine des trois pêcheurs.
Les trois pêcheurs.
La radio modifie tout ce qui passe par elle. Et cette modification est mon point de départ. J'ai besoin de savoir ce que j'écris, et pourquoi, et comment. Si je ne perds pas de vue une façon commune de parler, et la langue parlée à la radio est un très bon témoin, je puis mieux mesurer mes propres écarts de langage. Et le temps m'est compté. Quand tout sera fini, je reprendrai des passages, je corrigerai, je couperai sans doute dans notre entretien, ou bien je le réduirai à une brève déclaration, ou encore je n'en garderai que quelques pages, au hasard. Un auditeur, chez lui, impatienté, furieux, en ayant assez entendu, passerait à autre chose. N'importe quoi.
N'importe quoi.
C'est ça, n'importe quoi. Ah, décidément, les programmes de la radio, ça ne s'améliore pas. Alors.
Mission consacrée à Père et notre Seigneur.
Bon, rien. Ah non. Oh non. Idiot.
Avez-vous vu Jean Saint-Duport?
Ah, ça, c'était patent.
Quand même, je couperai.
En ce moment, je parle pour ne rien dire, peut-être.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
J'en ai peur.
Curieux.
Et moi, donc? Nous sommes en plein brouillon. Je suis le premier inquiet.
Oui,
mais
va,
dans la version définitive, celle qui sera diffusée, vous conserverez peut-être votre phrase « Nous sommes en plein brouillon ».
Oui,
ah, t'es pas
très bien. Nous nous comprenons, décidément. Je garderai aussi ce que vous venez de dire.
Bon.
Voici d'un trait. Écrire un texte radiophonique qui soit à la fois la description d'un match de football et la description du reportage radiophonique de ce match. Se servir du match et de la radio. Pour, dans une première partie, rassembler l'espace et la mémoire que sensibilise pour moi un tel sujet. Certaines choses de certains dimanches, certaines années. Pour, dans une deuxième partie, que le temps participe. Le temps propre à l'espace et la mémoire donnée. Le temps du texte aussi. Les ruptures de ton, les glissements de structure se rapprochent, se multiplient. Exaspération progressive de la forme et du fond. Car le match, enfin, exalte chez le spectateur un désir violent que traduiront en retour tous les effets, certains métaphoriques, que la forme pourra retenir. Contamination, échange. Et, de la première à la deuxième partie, et faisant basculer, précipitant l'une dans l'autre les deux parties, cette interview où nous sommes encore, elle-même contaminée par exemple, Madame, le plus charmant, la journée à la campagne des amoureux. Mais surtout, à la fois, l'inépuisable dire du tout dire et l'envers du texte, le temps qu'il fallut pour l'écrire, Aussi, peut-être, cette interview n'est-elle qu'un malheureux effort pour attraper mon projet, mes projets, écrire, renoncer toujours au projet pour un objet plus ou moins propre à notre désir. Ainsi, j'avais imaginé que nous resterions ensemble jusqu'à la fin et nous serions à l'occasion intervenus pour quelques autres superflus commentaires. Ainsi, ce reportage d'un match international de football, je m'en faisais une fête, ne devait-il pas être un bel objet sonore, une parade, vous savez, ces parades à l'entrée du cirque, même un défilé de mon confidentiel cirque, une parade adressée à l'oreille publique.
L'enfant rêve, dans cet appartement tranquille, comme caché dans le coin d'ombre où est allumé le poste de radio, la fenêtre ouverte, le bleu du ciel et le soleil encore pénétrant dans la pièce et faisant resplendir, maintenant, le bouquet de fleurs vives et l'eau, les tiges vertes dans l'eau, le haut vase de cristal taillé, sur le napperon de dentelle au milieu de la table, près du livre abandonné ouvert. Il rêve. Il entend les bruits rares résonnant du dehors. Il ouvre bien grande ses oreilles à toutes les voix du monde. Image. L'aiguille, verticale, comme dans un théâtre, par quelque machinerie que sa main posée sur le bouton commande. Verticale glisse vers la gauche ou la droite. Sous la plaque de verre où sont écrits en lettres d'or les noms des capitales et des villes de province, éveillant leurs échos, ce qu'ils disent chante loin. Lui écarquillant les yeux et, cependant qu'un disque vert lumineux selon la qualité de l'écoute rassemble ou désunit ses faisceaux, écarquillant les yeux, il se voit. Voit son visage reconstitué dans le miroir, sous les noms de tant de villes, sous le tableau. La carte de cette géographie sonore où sont abolies les distances. Mais non pas les voyages, ni les expéditions. Puisque voici les terres, où le disque vert lumineux s'affole tel la boussole à l'approche du pôle, d'où des gens perdus lancent des messages que lui seul peut-être entend et qu'il doit déchiffrer, auxquels il doit répondre avant de partir à son tour vers ses confins du globe. Cependant qu'à Colombes, où nous allons bientôt revenir, les équipes de France et d'Allemagne ont repris la lutte à égalité, 2-2. Les boucles de la Seine arrivent à leur fin. Et à Reims, la course automobile de printemps est entrée maintenant dans sa phase décisive. Mais je passe le micro à Roger Marceau.
Ici Reims, au micro Roger Marceau. D'ici 15 minutes, en effet, le petit drapeau à carreaux blancs et rouges aura été levé. Le vainqueur aura franchi en trombe la ligne d'arrivée. En tête, deux Ferrari. Celle du français Lamoureux, numéro 43, et celle de Arezzo, numéro 44.
Erneut stehen sich Franzosen und Deutsche gegenüber.
Les spectateurs, qui à la mi-temps, heureux de se dégourdir les jambes et de se distraire, s'étaient levés, avaient marché un peu, était allé à la buvette, ailleurs, avait rencontré peut-être un ami, remarqué ceci ou autre chose, tel ou tel, quelqu'un ou une personne à leur goût qui leur avait souri, ont repris leur place, ont retrouvé leurs voisins, qui eux étaient restés, gens sages, assis, aidant les uns, revenant à retrouver leur place, ou bien qui étaient partis eux aussi et s'étaient promenés un peu, pourquoi pas, mais maintenant eux aussi reviennent, ils s'installent, reprennent leurs habitudes. Regardent tout autour d'eux, font un tour d'horizon, voit que l'homme gros, gras, grand, qui fumait le cigare et se trouvait seul, n'est plus là, parti peut-être pour ne pas revenir, ou que la petite fille, si blonde, si gentille, de ce bon père brun moustachu, peut-être veuf, est assise à sa droite. Maintenant, orpheline...
Maintenant, les Français, sont à ma droite,
gauche, maintenant,
les Allemands à ma gauche.
Adesso, les Français sont à ma sinistra et les Allemands à la droite.
Ils ont changé de camp. Ce n'est plus pareil. Tout est changé.
Le beau temps, toujours, heureusement. Le vent, cependant, léger, à peine frais, s'est levé. Et le soleil, peu à peu, s'éloigne et descend à l'Occident.
Pourquoi n'avons-nous pas changé de côté, nous aussi?
Oui. À la mi-temps, quand les joueurs allaient se reposer, manger un citron, se rafraîchir le visage, discuter, tous se seraient levés. Et tous dans le même sens, celui des aiguilles d'une montre, tous, d'un même pas, se seraient mis en marche pour au même instant s'arrêter et s'installer aux places exactement opposées, si elles existent, à celles qu'ils occupaient avant.
C'est aussi bien qu'on soit resté où on était déjà.
Aussi bien. Car nous sommes maintenant, sans avoir seulement bougé le petit doigt, de l'autre côté du jeu. Et nous voyons maintenant l'envers de la partie.
Ce joueur, celui-ci, qui tout à l'heure était loin, dans cet angle là-bas, et qui jouait contre moi, silhouette hostile, minuscule, est tout près maintenant, avec la couleur de ses cheveux et la forme de ses oreilles. Je le vois bien. Et je suis avec lui. C'est mon territoire qu'il défend.
Les Français attaquent. Les Allemands résistent et contre-attaquent. Le ballon va et vient d'un bout à l'autre du terrain, roule à ras de terre, bondit, rebondit, vole. Les Allemands attaquent, les Français résistent.
Descente de mortier qui feinte en Kerman, feinte Franz, passe à Michel qui passe à Kennedy, qui feinte Benz, feinte Benzen, est arrêté par Wagner, perd la balle, la reprend et c'est mortier qui shoot. But! Non, la balle est renvoyée en corner. Corner tiré par Michel, Stoffacher dégage dans sa Göring qui passe très en avant à Ankermann. Balle reprise par Morg, reprise perdue par Ankermann.
Nouveau corner tiré cette fois par Ferrand. La balle extrêmement légère portée par le vent qui se lève revient vers les buts. Le gardien Wassermann à point fermé dévie la balle de justesse et il tombe. Balle reprise de volée par Grou et c'est le but!
À la maison.
Par le même chemin que nous avions pris tout à l'heure. Et ce n'est plus le même instant. Nulle part.
Ils s'embrassent et recommencent à marcher.
Ombre de feuilles et soleil bougeaient sur ton visage proche immobile. Et tu gardas les yeux ouverts, tes yeux lumineux noirs, le sang affleurant la peau. À quoi penses-tu? Pourquoi?
Rien.
De la remise en jeu sur corner tiré par Ferrand, Grou a marqué le troisième but français. Les Français maintenant mènent par 3-2.
Wagner descend le terrain seul. Les Allemands suivent, envahissent le camp français. Les Français en hâte se replient. Wagner lance à Ankermann qui démarqué court au but. Sa route est libre, ensoleillée. Il ralentit, s'apprête à tirer. Seigneur, pas pressé. Prend son temps et il tire. But! Mais la foule crie indignée. Hors jeu. Peut-être bien, en effet, oui, à coup sûr. L'arbitre de touche agite son drapeau. Monsieur Hamilton se rend à l'évidence, reconnaît le hors-jeu, siffle. La foule applaudit.
Nous entrons dans la piscine. Nous sommes passés à la maison. Avons pris serviettes et maillots. Avons traversé le pont sur la Marne. Et de ce pont neuf, toi, vêtu d'une jupe fleurie à galons verts crus et d'un corsage blanc, chaussé de sandales, coiffé d'un chapeau de paille, nous nous sommes embrassés. Nous pouvions voir d'un côté et de l'autre la Marne, l'eau verte et jaune, les rives lentes, richement boisées, les prairies, les collines.
Du pont, nous pouvions voir en bas la piscine. Nous avons regardé cette nageuse, femme de 30 à 40 ans, blanche et grasse en maillot vert, chair nénuphar triste, nageant à contre-courant, à grand-peine, n'avançant guère, n'avançant plus du tout. Arrivée cependant, après quelques efforts et ne pouvant poursuivre, arrivée à l'ombre du pont, sous nous, et nageant si mal en vérité, brasse désaccordée, qu'on aurait dit d'une noyée, le corps d'une noyée, remuée par des courants contraires, sans plus changer de place, pourtant, et près de s'enfoncer.
Au bas de la pente très douce, la Marne, aujourd'hui haute à ras-bord, de niveau quasiment avec le sol sableux.
Ce n'est pas la mer. Bien agréable quand même.
Voici la mer. Voici la plage qu'un avion tout à l'heure survolait. Le vent fraîchit. Le soleil, haut encore, s'approche pourtant de la mer. Et dans les vagues ensoleillées, les enfants s'amusent, rient, crient, se poursuivent et se lancent de l'eau, ou bien, un peu plus loin avancés, à trois ou quatre se donnant la main, attendent pour y sauter. La prochaine de ces grosses vagues qui, toutes pareilles, parallèles, venues de biais, grossissantes à vue d'œil, plus ou moins grosses, arrivent. Et on saute dedans et vont toutes mourir, plus ou moins loin. Hélas, un nageur isolé, imprudent, téméraire, se noie. Le noyé maintenant est couché sur le sable. Le corps inanimé et bleu. Les curieux, effrayés, mais curieux, et priés de partir, reculent de quelques pas, restent là, regardent encore, en cercle. Les mères viennent chercher les enfants accourus et les remportent. Ne voyez pas cela! Cependant qu'on va chercher du secours, un sauveteur agenouillé sur le corps du noyé lève les bras. Il les abaisse, lève, abaisse.
Les deux Ferrari sont toujours en tête. C'est Harry Cummings, troisième, qui passe maintenant avec moins d'un tour de retard, opérant une remontée sensationnelle. L'ingénieur de Cummings, quittant la piste, vient d'entrer dans la foule. Y plonger après avoir heurté l'inefficace bordure de protection. Et la voiture en flamme, retombant dans la foule, s'y ferait un passage meurtrier. S'immobilise. Le champion anglais carbonisé, sans doute. Non. Il se dresse hors de sa machine, indemne, dirait-on, et il marche. Chancelle, élève le bras droit et lentement s'écroule. On se précipite, la foule épouvantée s'enfuit, certains sont renversés, piétinés. Mais sur la piste, les bolides continuent de tourner. Rien n'arrête leur folle poursuite.
Wagner tombe! Coup franc, cette brutalité, qu'elle soit française ou allemande, est indigne du sport qu'elle prétend servir. Les Français mènent toujours par 3-2.
Bandit !
Chalon va, bandit !
Bandit !
Au-dessus du stade de Colombes, deux avions, très haut dans le ciel, minuscules stylos, étincelants, traces en blanc, en fumée blanche et légère. Le nom d'une célèbre marque de vin. Tout tout est écrit maintenant. On avait attendu. À la troisième lettre, on avait deviné. À la quatrième, on était sûr. On avait bien deviné. Les sept lettres sont maintenant bien nettes. Mais bientôt, maintenant, les deux premières commencent à se défaire et à se déformer. Les trois traits du N se désarticulent. Cependant que le I se tord, s'étend, se distend.
À Ferrand qui descend à une vertigineuse.
Toutes les lettres peu à peu se défont, insensiblement. La fumée s'effiloche, pâlit, se dissipe. L'ensemble maintenant bascule, change de plan, se dilate. Les trois premières lettres déjà méconnaissables, gommées, effacées tout à l'heure. Cependant que, plus loin vers le sud, au-dessus de Paris, les deux avions de nouveau écrivent dans le ciel le nom de cette célèbre marque de vin. Ici, devant ce café de mauvaise apparence. Et avant d'y entrer, un homme lève les yeux au ciel, épelle à mi-voix.
N-I-C.
Et voit un avion près de Boukhelova, le trou ventru du haut. Et un deuxième avion tracé bien droit, à n'en plus douter le trait vertical du L. Ici, devant ce café où l'on regarde à la télévision le match de Colombes, dans cette rue pavée peu fréquentée, quelques enfants jouent au football, avec une balle rouge, se faisant à eux-mêmes le reportage de ce match qu'ils jouent et qu'ils se jouent.
Mortier passe, qu'il est ici, but !
Tartin lance la balle, remise en jeu !
Je descends, je feinte, je retourne en arrière, je reviens, je fais une jolie chandelle, une tête, hop, et je marque le but !
3-3, les deux équipes sont à égalité ! Mesdames, messieurs, vous n'avez jamais vu, jamais vu, jamais !
Qui, ouvrant la porte du café et restant sur le seuil, laissant la porte ouverte, d'un œil regarderait jouer les enfants et de l'autre suivrait, en même temps qu'une jeune femme debout derrière le comptoir, suivrait le match de Colombes sur le petit écran, voyant le jeu bien mieux sans doute que ne le voient des gradins les spectateurs de Colombes. Qui, donc, un œil ici et l'autre là, tendrait là une oreille, l'autre ici, à la fois entendrait, ouvrant la porte du café.
Passe à Mortier! À toi! À moi! Je prends la main! Je m'amuse! Je ris! Je joue avec le salon de la tête!
Belle reprise par Mortier! Qui passe à qui ici? Qui passe à Mortier? Qui passe à qui ici? Qui passe à Mortier? Qui passe à qui ici?
Je prends la balle! Attention!
À moi! Balle reprise par Jacques, qui passe à Ahmed, qui coupe sur un pavé, tombe, heurte un pare-choc, se relève. Passe à Jacques, qui passe à Michel, qui passe à Mortier, qui shoot. Le gardien va servir le bloc et sans attendre dégage. Envoie la balle à Göring, qui passe à Franz, qui passe à Heller, qui passe à l'autre extrémité du terrain. Cromer qui descend, fin de Ferrand, fin de Gaillard. Balle reprise par Lefebvre, qui envoie au centre du terrain Mortier, qui lance en avant Michel, qui perd la balle au profit de Göring, qui passe à Heller, qui renvoie au centre du terrain Wagner, qui descend à toute allure. La balle collée au pied, feinte Mortier, le laisse sur place. Non, perd la balle. Balle reprise par Mortier, qui passe à Gros, qui perd la balle au profit de Franz.
Depuis la ligne médiane, Wagner, d'un shoot vraiment extraordinaire, sensationnel, merveilleux. L'arrière central et capitaine de l'équipe allemande, Wagner, vient d'égaliser à la 12e minute de la remise en jeu.
Wagner, oh Wagner, oh triomphe, oh gloire.
Dans les Allemands, après Wagner, le musicien, il y a Göring, le lieutenant d'Hitler. Et puis, trois noms à trois syllabes. Wassermann, Stauffacher, Ankermann. Et puis, Bernard, descendant de huguenots français immigrés en Prusse après la révocation de l'édit de Nantes. Et puis, Heller et Cromer, les deux ailiers en R. Oiseau, aile en l'air, et bec de corbeau croassant, son grand nez. Puis, de deux à une syllabe, on va de Bansen à Benz, qui si souvent se passe le ballon. Benz, proche de Franz, et avec lui, encadrant l'avant-centre, Ankermann. En face, le gardien s'appelle Martin. Martin, c'est un nom de gardien, le berger Martin. Il est aidé par ses chiens de berger, Lefebvre et Balaccio, au nom de berger italien ce dernier. Au centre, il y a Morgue. Un nom plutôt fier que mortuaire et distant. C'est lui qui coupe net les Allemands. Morgue se trouve entre Kalinowski, un mineur polonais, très blond, et Gaillard, un gaillard plein de morgue. À l'avant, à l'aile gauche, Ferrand, qui tape fort. Maréchal Ferrand, accompagné de maréchaux et généraux d'Empire, Mortier, Michel, Krult au lieu de Croux. Gilici, autre nom italien, n'a rien à faire avec l'Empire. Mais Lefebvre à l'arrière, oui.
Les deux équipes sont toujours à égalité, 3 buts à 3.
Das Spiel steht immer noch unentschieden, 3-3. Français et Allemands également décidés à force égale et à égalité. Franzosen und Deutsche, beide Mannschaften gleich entschlossen, gleich stark.
Et les uns et les autres.
Les Allemands ayant rattrapé les Français, poursuivant leur effort et dans un même élan, vont-ils enfin prendre l'avantage?
Cependant que les supporters allemands triomphent et trépignent, le public de Colombes, surexcité, électrisé, électrisant du même coup ses joueurs et leurs adversaires, veut exiger, réclame le but.
Français ni Allemands, également acharnés, également combatifs, ne peuvent en leur faveur défaire l'équilibre.
Le jeu, comme quelque exercice au trapèze, où les deux partenaires, mobiles toujours et déséquilibrés, et tout près de tomber, maintiennent tout de même, mépris de la raison et de la pesanteur, par un mouvement exact et compliqué, improvisé sans cesse et toujours accompli, un prodigieux équilibre.
Pied, tête, coup de pied, coup de tête, rétro, chandelle, la balle saute, court, roule, s'élève à tous les azimuts, retombe, en tous sens et à toutes les vitesses, circule, portée, lancée, prise et reprise, elle culbute et précipite, arrête, relance ses servants, sans plus jamais devoir, paraît-il, tomber d'un côté ni de l'autre dans les filets.
Mais tandis que là-bas, les spectateurs émerveillés, angoissés, redoutent la rupture, la faute, les corps merveilleux précipités au filet, pantins morts et désarticulés, perdus la vie, torture, sur le filet rebondissant, ici, tout au contraire, le public impatient attend, avec angoisse, oui, fièvre et passion, attend, et plus que cela, que le ballon enfin, selon les cœurs, tombe dans ces filets-ci, ou cela, ou aille au diable.
Démonstration enthousiasmante, véritablement internationale. Nous n'oublierons pas les 60 000 spectateurs français et allemands de Colombes. Vous-même, chers auditeurs, n'oublierez pas ce combat épique, ce tournoi de géants.
Oh là 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 là, comme si les règles du jeu ne leur suffisaient pas pour vider leur querelle. Et cédant à la fin la pression du public, les joueurs maintenant recourent à la violence.
Ferrand est à terre. Cromer s'éloigne avec le ballon. La foule crie son indignation. Les Français arrêtent de jouer. Ils font grève. Quelques-uns entourent leurs camarades blessés. Les Allemands, cependant, courent au but.
Ferrand ne se relève pas. Peut-être bien que les Français exagèrent, veulent obliger l'arbitre à voir, à sanctionner. Mais M. Hamilton, comme exprès pour exacerber la colère de la foule fixée sur son immobile, impassible silhouette, tourne le dos.
Les Allemands, dans ces conditions, bien sûr, marquent le but et la foule hurle littéralement. Vous l'entendez? Avec elle, je voudrais hurler.
Enfin, M. Hamilton siffle. Il siffle le coup franc. Il attendait que les Allemands soient allés jusqu'au bout, jusqu'au but de leur offensive. Surprenante, exaspérante, inacceptable humeur du mot anglais.
Non, pas du tout. tous. Monsieur Hamilton a simplement attendu.
Et qu'a-t-il attendu selon vous, cher monsieur?
Il a attendu que les choses soient bien rétablies.
Ah oui, vraiment, il était nécessaire de...
Oui, vraiment nécessaire. Nos arbitres sont les meilleurs arbitres in the world.
Votre mauvaise foi inspirée, j'en conviens, par un respectable souci d'honneur national, on n'est pas moins fort déplacé chez un informateur sportif qui, étant informateur et sportif, se doit doublement à l'impartialité.
Et quoi qu'il en soit, Cromer rapporte la balle, la pose à terre à l'endroit du scandale. Ferrand, qui s'est levé, a clopiné un peu, histoire de se remettre, semble prêt à se venger. Gaillard tire le coup franc, et but ! Non ! Non, corner tiré par...
L'attitude extravagante de M. Hamilton a tendu un peu plus d'atmosphère, déjà lourde. C'est, dans les 18 mètres avant, une mêlée confuse, une rixe plutôt qu'une joute sportive, très loin en vérité du sport tel que nous l'aimons, et du football en particulier.
Esto Fascher dégage les buts allemands. Après qu'à trois reprises, la balle frappant la barre transversale et de 60 000 poitrines a arraché le cri de victoire.
Si le match, plutôt que de dégénérer en sombre bagarre, se métamorphosait soudain en combat singulier, ceci passionnerait la foule et serait la comblée. Tel deviendrait boxeur ou catcheur. Ceci, vêtu de noir et haut de forme sur la tête, se livrerait à un duel à mort au pistolet. Ceux-ci, ayant vêtu brillante armure et cheval enfourché, lance au poing, se défiant, attendraient l'ouverture du tournoi. Ici, là...
Le noir américain John Parker inflige une correction sévère à l'italien Pietro Dialli. Crochet droit, un gauche, un droit, double du gauche, uppercut de menton direct dans l'estomac. L'arcade sourcilière et Pietro Dialli saignant s'écroule. Son manager lance des bombes. John Parker est déclaré vainqueur.
Duel au pistolet maintenant. L'aube. De la rivière blanche, le brouillard s'étend sur la prairie. Les combattants prennent leurs armes dans l'écrin tenu ouvert par le premier témoin, puis se placent face à face. Ils font au même instant demi-tour. À pas compter, à haute voix, s'éloignent l'un de l'autre. Au même instant, distants de nouveau, se font face et se mettent en joue.
L'aube bleue est debout au centre du ring. Gorille inquiétant, grognant, légèrement voûté. Long bras ballant, main monstrueuse, tournée vers le jeune agile adversaire qui, prenant appui sur les cordes, prend son élan, saute à pieds joints des deux pieds dans la poitrine de l'homme bleu qui, accusant le coup, saisit à bras le corps le malheureux et le lance sur les cordes d'où il était parti, qui maintenant le renvoie dans les bras ouverts de l'homme bleu qui, d'un coup de rein, l'envoie voler par-dessus les cordes sur le premier rang, riant, impressionné quand même, des spectateurs.
Et maintenant, le tournoi.
L'arbitre, M. Hamilton, se dépenserait sans compter, ne saurait plus où donner de la tête, se multiplierait infiniment, se déguiserait, s'habillerait quasi simultanément ou multiplierait vraiment en arbitre de boxe, de catch, premier témoin 1830.
M. Hamilton, au tournoi!
Lui!
De ce tournoi, madame, vous seriez la reine et je...
Cela nous égare fort loin.
Oui, vous avez raison. Si le match dégénérait en combat véritable, comme cela se voit parfois chez les Zoulous, qui jouent pieds nus au football ou encore en Amérique du Sud, le sort du gouvernement dépendant de l'issue du match, eh bien, le public, dégringolant les gradins, envahirait de force le terrain.
Non pas, madame, car la police ferait barrage et rétablirait l'ordre.
Vous voulez dire que la police porterait le désordre à son paroxysme ?
Eh bien, la fanfare du 1er régiment d'infanterie coloniale jouerait la Marseillaise. Et tous aussitôt, se mettraient au garde.
Je veux bien que la fanfare joue la Marseillaise. Mais ne l'oubliez pas, la Marseillaise n'eut pas toujours ce pouvoir lénifiant que vous attendez d'elle. Habillez donc nos joueurs en soldats de l'an 2 et multipliez-les. Les voici sur le Rhin. En face, les Prussiens, les Autrichiens, les Russes.
La bataille s'est engagée à 8h du matin. Il est maintenant midi. Les Français tiennent solidement le petit village.
Les généraux Mortier et Lefebvre, Groux, Michel, Murat, Hoche...
De part et d'autre, les pertes sont lourdes.
Maintenant, l'armée révolutionnaire, dans l'enthousiasme, se jette sur les lignes ennemies qui résistent. Mais les vagues incessantes des assaillants, quoiqu'aux trois quarts à chaque fois fauchés dans leur élan, font plier, enfoncent, désagrègent, mettent en fuite enfin Autrichiens et Prussiens.
Ayler qui shoot, balle reprise par Balaccio, qui envoie en avant très loin un groupe qui passe un mortier qui shoot, balle reprise par Bernard qui donne à Wagner qui dégage, balle arrêtée par.
À la limite de leur force, les joueurs semblent capables de seulement tenir, attendant du renfort, et si ce n'est Crouchy, ce sera plus cher.
Je vous en prie, cessez les métaphores militaires. Que chacun aille au-dessus de ses forces et trouve en lui d'insoupçonnées ressources. Que le public, à bout d'émotion, n'en demeure pas moins et au contraire, à ce point violent d'intensité où tout peut arriver. Rien pourtant ne se produit qui serait décisif. Rien qui, d'un côté ou de l'autre, fasse pencher la balance. Et, de mieux en mieux, il semble qu'on assiste à quelque terrible corps à corps où les adversaires, de force égale et détermination, plutôt que l'un ou l'autre, ou tous deux s'avouer vaincus, tous deux restant debout et échangeant des coups, bientôt prendront l'un l'autre appui sur le corps qu'ils prétendaient abattre, et enfin, l'un à l'autre appuyé, incapables de se battre encore, tous deux seront vainqués.
Tout but d'un côté marqué, bientôt le fut de
restant
l'autre, que
de demeure
l'égalité et n'importe laquelle, le combat, quand il devrait cesser, reprendrait de plus belle.
En deux reprises d'un quart d'heure, séparées par 10 minutes de repos, après les 15 minutes où, à la fin du match, se seraient reposés les joueurs, en ces 40 minutes, les joueurs allemands et français, français et allemands, passant sur leur fatigue, devraient trouver des forces neuves, et le public retenu, captivé de cette reprise du combat, attendrait l'heure de vérité.
Annoncerait la prolongation,
reviendrait
sur le terrain,
würden die Spielverlängerung ankündigen, würden auf den Platz zurückkommen, würden wieder beginnen,
descendraient, dribbleraient, passeraient.
Les haut-parleurs annonceraient la prolongation.
Les joueurs reviendraient sur le terrain.
La lutte reprendrait, plus folle, plus angoissante.
Les Allemands attaqueraient. Ankermann descendrait, dribblerait, passerait en retrait à Franz, qui lancerait en avant Heller, qui renverrait au centre du terrain à Ankermann, qui tirait au but.
Martin bloquerait, dégagerait, Morgue tirerait, passe en avant à Mortier.
Le jeu serait incroyablement vif et rapide. Le temps passerait cependant. Bientôt viendrait la nuit. Les projecteurs seraient allumés.
Transfigurés par la lumière, sur le gazon d'un vert brillant, les joueurs projetteraient leurs ombres. Un ballet fantastique ainsi, accompagnant leurs gestes.
Puis ce serait la victoire française.
À l'issue de la prolongation, quelle joie!
Certains n'y tenant plus voudraient venir sur le terrain féliciter les joueurs, au moins les voir de près, leur serrer la main, les porter en triomphe.
La police s'opposerait au bien compréhensible inoffensif envahissement du terrain. Un jeune homme, ayant franchi le barrage, serait sur la pelouse, sous les yeux de 60 000 spectateurs, poursuivi par un agent qui, rejoignant malgré ses ruses le gamin, irrité par les rires, les colibés nombreux qu'aurait provoqué la farfelue corrida, se jetterait sur lui, l'assomme à coups de bâton.
Mais cette brutalité serait vraiment inacceptable. Le public ne peut la tolérer. Il manifeste. D'autres supporters franchissent le barrage de police. Des gradins, le public mitraillerait la force de l'ordre avec des bouteilles vides. Des policiers sont atteints, l'un d'eux a le visage en sang. Mais aussi, pourquoi avoir contre ce doux jeune homme? L'un d'eux le visage ensanglanté serait...
...dribblerait, passerait...
Mais non
Sur une passe très longue et très précise de Gaillard, Mortier, quand Ankermann l'avait déséquilibré et que la balle allait lui échapper, quand 60 000 poitrines allaient exprimer leur déception profonde, Mortier, tombant à terre dans le moment qu'il tombait, et alors qu'Ankermann croyait déjà du pied renvoyer le ballon vers les buts français, à ce moment, Mortier, tombant, déséquilibré, a trouvé l'ultime ressource. Il a, trompant son monde, surprenant le public, surprenant ses adversaires et ses coéquipiers, surprenant le gardien Wassermann, il a, par quel hasard ou par quelle habileté, d'un tir apparemment inoffensif, à ras de terre, le ballon hésitant, bondissant sur le terrain en courte trajectoire irrégulière, prenant à contre-pied le gardien Wassermann, loger enfin le ballon dans les filets allemands.
Ma
Match nul, un but partout. À Cherbourg, Montpellier bat Cherbourg par 4 buts à 1. Mesdames, Messieurs, la réunion est terminée. Nous vous souhaitons bon retour, bonne soirée et bonne nuit.
Maintenant, peu à peu, la foule quitte le stade.
Les officiels, le président du conseil municipal, sont partis entre deux haies de gardes républicains. Les premiers partis, marchant dans les rues de Colombes, encore calmes, interrogés, répondent, disent les résultats.
Maintenant, déjà, Colombes est envahie par le flot de voitures et autres véhicules, par le flot immense précipité des piétons qui courent à la gare.
Sans interruption, bondés, les trains spéciaux s'ébranlent.
Déjà, car peu de temps suffit, déjà les premiers trains débarquent à Saint-Lazare. Les premiers spectateurs revenant de Colombes et certains déjà tout à fait confondus dans la foule du hall et de la salle des pas perdus vont prendre et maintenant descendre les escaliers du métro, vont retrouvent le métro, la lumière électrique jaune sur la faïence blanche, la peinture verte, le rouge, le noir, le sol gris brillant. Voici la vie normale. Et ils voient arriver sur le quai où déjà ils attendent des groupes qui, sans doute comme eux, oui, reviennent de Colombes.
Ici, Paris de diffusion Vision Française. Je vous présente le journal parlé de l'ami, le président.
Donc, premier pas concret sur la voie de la grande Europe.
Nos jeunes n'en possèdent pas moins un code moral et des sentiments très vifs de justice.
Au niveau ministériel. Très vite, la discussion est entrée dans le vif du sujet.
Mais l'homme de fleur bleue, il va arriver, il est enroué, mais il va quand même dire des mots charmants.
Dès cette première séance, les vues des six ont été exposées sans équivoque.
Gilles Ladoumègue, l'espoir.
Eh bien, un discours socialiste approuvant la politique du gouvernement, une intervention proclamant que les musulmans ne veulent autre chose que l'égalité des droits.
40% d'entre eux possèdent un engin à moteur.
Eh bien, ça sera tout de même très intéressant. Et je sais bien ce qu'au premier abord on peut penser. Ben, place aux jeunes, hein. L'écroulant en vestiaire. Oui, d'accord, d'accord.
Taquine citation du plan de Constantine, souhaitant que ce soit un placement à fond perdu. Que ce ne soit pas, veux-je dire, un placement à fond perdu.
Ici, Ajaccio. Pour une technique nouvelle, essentiellement française.
On peut le négocier d'un jour à l'autre.
Il reste entendu que la décision concernant la taxation de la viande de bœuf dépend en grande partie de l'attitude qu'adopteront les bouchers
qui dimanche rencontrent la Bulgarie à Sofia pour la Coupe du Monde.
Avant de passer aux résultats sportifs de ce dimanche,
une anthologie des variations,
il nous faut signaler un événement également regrettable. À Reims, la course automobile de printemps a été le théâtre d'une catastrophe qui a coûté la vie au coureur anglais Harry Cummings et à 5 spectateurs, un enfant, 2 femmes et 3 hommes. Il y a 20 blessés graves. Les accidents de la route ont d'ailleurs été particulièrement nombreux durant ce week-end.
L'équipage entier du Béréane aurait cependant été évacué.
La radiodiffusion télévision française a donné carte blanche à Jean Thibaudeau, qui vous a présenté ce soir reportage d'un match international de football. Ce texte était interprété par Sylvia Monfort, Claude Martin et Daniel Gélin. Participaient également à cette émission Claude Vernier, Philippe Gaunt et Paul Rudy, avec Anne Pérez et Michel Garland, Lily Sioux et l'auteur. Ainsi que Ginette Franck, Jacqueline Arpet, Armel Issartel, Guy Kerner, Roger Trécan, Pierre Vernier, les petits Gilles Amado, Patrick Lemaître, Olivier Richard, Liliane Vichenet et le public du Stade de Sedan. Bruitage, Joël Noël. Chef opérateur du son, Guy Louvet et Jean Pantaloni. Assistante, Marie-Andrée Arminot. C'était une émission de Lily Sioux, réalisée par Alain Trutat.